Les guerrières, Monique Wittig, lecture à 7 voix, avril 2020.
Elles disent « Je serai l'Attila de ces féroces despotes, cause de nos pleurs et de nos souffrances. » Elles disent « Et quand par bonheur, toutes voudront se rallier à moi, chacune sera Néron également et mettra le feu dans Rome. »
Théophano.
Elles disent « Guerre, à moi. » Elles disent « Guerre, en avant. »
César.
Elles disent « Qu'une fois qu'elles auront les armes à la main, elles ne les abandonneront pas. » Elles disent « Qu'elles secoueront le monde, comme la foudre. » Et le tonnerre.
Olga.
Elles ont calqué leur arme la plus redoutable sur le miroir métallique que les déesses du soleil présentent à la lumière, en s'avançant sur le parvis des temples.
Virgilie.
Elles se sont servies de sa forme et de sa propriété de réfléchir la lumière.
Portia.
Chacune d'elles tient un miroir à la main. Elles se cachent derrière les hauts calés, les herbes dures des savanes.
Xuhu.
Elles se servent des rayons du soleil pour communiquer entre elles.
Aban.
Quand il fonctionne comme une arme, le miroir projette des rayons mortels.
Clémentine.
Elles se tiennent au bord des routes qui traversent les brousses, l'arme élevée, tuant tous ceux qui passent, qu'ils soient des animaux ou des humains.
Abra.
Ils ne meurent pas sur le champ. Elles sautent alors d'un bond près de leur proie et, faisant le signal, immédiatement rejointes par d'autres, elles se mettent à danser en poussant des cris, en se balançant d'avant en arrière, tandis que leur victime se tord au sol, secouée de spasmes et gémissant.
Aude.
À qui leur demande ce que veut dire le sigle LCDB, elles répondent « Vous ne saurez pas de quoi il s'agit. »
Marthe.
LCDB, elles disent « Vous pouvez chercher puisque vous avez la première lettre de chaque mot. »
Jacinthe.
Elles disent « Ça ne veut rien dire pour vous, même écrit en toutes lettres. » LCDB. Elles disent
« Maggie. »
Si je traduis pour vous la conjuration de Balkis, qu'en concluez-vous ?
Uria.
Elles disent que les révoltes ont gagné en étendue et en force. Elles disent qu'étant donné leur multiplication, il n'est plus question d'utiliser le sigle au singulier. Elles disent qu'on ne peut plus compter les conjurations de Balkis. Elles disent que les conjurés, en se rencontrant, font le signe du cercle, en rapprochant leur index et leur pouce, qu'elles arrondissent dans cet assemblage.
Dorothée.
Si les conjurés tournent leurs paumes vers l'extérieur pour faire le signe du cercle, les pouces étant joints vers le bas, les index vers le haut,
Agrippine.
C'est que les nouvelles sont bonnes. Que la guerre se poursuit avec succès. Si au contraire, elles font voir le dos de la main, les index en bas, les pouces en haut,
Dircé,
c'est qu'elles ont essuyé des revers quelque part.
Nel. Elle crie et accourt vers les jeunes hommes, les bras chargés de fleurs qu'elle leur offre en disant « Afin que tout cela ait un sens. » Quelques-unes, arrachant des quantités de têtes à leurs fleurs disposées en brassées, les jettent contre leurs joues. Ils secouent leurs cheveux et rient, en s'écartant d'elles et en se rapprochant. Certains s'enfuient et se laissent tomber à terre, mollement, les yeux fermés, les mains tendues. D'autres sont complètement dissimulés par les monceaux de fleurs qu'elles ont jetés sur eux. Il y a des roses, des tulipes, des pivoines, des lupins, des pavots, des mufliers, des asters, des bluets, des iris, des euphorbes, des boutons d'or, des campanules. Il y a partout sur le sable des pétales et des tronçons de corolle qui font des taches blanches, rouges, bleu roi, bleu pastel, bleu outre-mer, jaune et violette. Quelques-uns disent qu'ils sont ivres. On les voit se rouler dans les bouquets immenses, les gerbes défaites, les couronnes démantibulées. Ils se saisissent des fleurs par poignées et les appliquant contre leurs paupières, contre leurs bouches ouvertes, ils se mettent à roquer doucement. Quelqu'une raconte une vieille histoire. Par exemple, comment Tomarly, la jeune fille au sein haut, a été surprise avec le bel Edon. On parle du châtiment dont ils ont été victimes. Elles disent qu'elles se les représentent, fixées l'un à l'autre, les membres attachés, poignet contre poignet, les chevilles rivées aux chevilles. Elles disent qu'elles se les représentent quand on les a jetés dans le fleuve, sans qu'ils aient un cri de supplication. Elles disent « Victoire ! Victoire !» Elles disent comment leur attouchement leur est agréable, comment leurs membres se détendent et s'amollissent, comment leurs muscles touchés par le plaisir deviennent souples et légers, comment dans cette position malheureuse, alors qu'ils sont promis à la mort, Leur corps délivré et plein de douceur se met à flotter. Comment l'eau tiède, agréable au contact, les porte jusqu'à une plage de sable fin où ils s'endorment de fatigue. Les jeunes hommes se sont joints à elle pour enterrer les morts. D'immenses fosses communes ont été au préalable creusées. Les cadavres sont rangés les uns à côté des autres, portant au front un cercle tracé à l'encre noire. Leurs bras raidis sont maintenus par des liens contre le corps, leurs pieds sont attachés. Tous les corps ont été momifiés et traités avec soin pour une longue conservation. Les fosses ne sont pas recouvertes de terre. Des dalles sont destinées à les fermer, suivant un dispositif qui permet de les soulever à tout moment. Elles sont debout au bord des fosses, ceux qui se sont joints à elles sont à leur côté, portant comme elles le costume de paix qui est un pantalon noir évasé aux chevilles et une tunique blanche qui serre le buste. À un moment donné, elles interrompent leur discours et se tournant vers les jeunes hommes, elles leur prennent la main. Alors on reste ainsi en silence, en se tenant par la main, en regardant devant soi les fosses ouvertes. Elles disent que l'événement est mémorable, quoique préparé de longue date et mentionné de façon diverse par les historiens, les écrivains, les faiseurs de vers. Elles disent que la guerre est une affaire de femmes. Elles disent, n'est-ce pas plaisant ? Elles disent qu'elles leur ont craché au talon, qu'elles ont coupé les tiges de leurs bottes. Elles disent que, pourtant, bien que le rire soit le propre de l'homme, elles veulent apprendre à rire. Elles disent que, oui, dorénavant, elles sont prêtes. Elles disent que les tétons, que les cils courbes, que les hanches plates ou évasées, elles disent que les ventres bombés ou creux, elles disent que les vulves sont désormais en mouvement. Elles disent qu'elles inventent une nouvelle dynamique. Elles disent qu'elles sortent de leur toile. Elles disent qu'elles descendent de leur lit. Elles disent qu'elles quittent les musées, les vitrines d'exposition, les socles où on les a fixés. Elles disent qu'elles sont tout étonnées de se mouvoir. Onfal, Corinne, Elfreda, Louhou, Maifei, Digvavara, Kiji, Vijaya, Batitarika, Ludgard, Gertrude, Diane, Rognied, Malan, Cléopâtre, Amérise, Betsabé, Claude. De la colline, elles descendent en portant des torches. Leurs troupes s'avancent, marchant le jour, la nuit. Elles disent où porter le feu, quelle terre incendiée, quel meurtre perpétré. Elles disent non, je ne me coucherai pas. Non, je ne reposerai pas mon corps fatigué avant que cette terre à qui je fus si souvent comparée, bouleversée de fond en comble, soit à jamais incapable de porter des fruits. Elles allument les pins, les cèdres, les chênes lièges, les oliviers. L'incendie se propage avec une extrême rapidité. Il y a d'abord comme un grondement lointain, puis c'est un ronflement qui enfle et qui finit par couvrir leur voix. Elles, alors plus rapides que le vent, s'enfuient, portant de toutes parts le feu et la destruction. Leurs cris et leur fureur luttent avec le bruit de l'incendie. Elles disent « Tu es rapide comme Gourada la messagère », aux ailes et aux pattes d'hirondelles qui a dérobé au ciel l'ambroisie et le feu. Elles disent « Tu peux, comme Aizé, dérober le pouvoir sur la vie et la mort et devenir comme elle universelle. » Elles disent « Tu t'avances avec le disque du soleil sur la tête, comme Otar au visage doré qui représente l'amour et la mort. » Elles disent « Dans ta colère, tu exhortes Out, qui tient le ciel et dont les doigts touchent la terre, à crever la voûte céleste. » Elles disent « Comme Itora, vaincu, tu réajustes les deux moitiés de ton corps, ciel et terre, Debout tu vas en hurlant, en créant des monstres à chaque pas. Elles disent tu sautes sur les cadavres, les yeux injectés de sang, la langue tirée, les dents en croc, les paumes des mains rouges, les épaules ruisselant de sang, portant des colliers de crâne, des cadavres à tes oreilles, des guirlandes de serpents autour de tes bras, tu sautes sur les cadavres. Elle s'adresse aux jeunes hommes en ces termes. Jadis, vous avez compris que nous nous sommes battus pour vous en même temps que pour nous. À cette guerre qui a été aussi la vôtre, vous avez pris part. Aujourd'hui, ensemble, répétons comme un mot d'ordre que toute trace de violence disparaisse de cette terre, alors le soleil a la couleur du miel et la musique est bonne à entendre. Eux applaudissent et crient de toute leur force. Ils ont apporté leurs armes. Elle les enterre en même temps que les leurs en disant que s'efface de la mémoire humaine la guerre la plus longue, la plus meurtrière qu'elle ait jamais connue, la dernière guerre possible de l'histoire. Elle souhaite aux survivantes et aux survivants l'amour, la force, la jeunesse. Qu'ils fassent une alliance durable sur des bases qu'aucun différent ne pourra compromettre à l'avenir. Quelqu'une se met à chanter. Semblable à nous, ceux qui ouvrent la bouche pour parler, mille grâces à ceux qui ont entendu notre langage et ne l'ayant pas trouvé excessif, se sont joints à nous pour transformer le monde. On voit qu'elles ne peuvent plus se porter. Elles marchent en tenant continuellement leurs jambes pliées. Certaines, maintenant, tombent à terre. On voit qu'elles pleurent. On voit que leurs cheveux tombent le long de leur corps. Elles les ramassent par poignées et les jettent à côté d'elles en boule. Marie-Laure Hibon pleure en disant « Où sont mes cheveux longs, mes cheveux blonds et bouclés ?» Elles marchent en jetant leurs cheveux près d'elles, sans force, semble-t-il, pour les piétiner. À côté d'elles, des vieilles à cloche-pied les suivent, sautillant et poussant des petits cris. « Et quoi » disent-elles, « tous ces cheveux ?» Elles courent alors, ça et là, en entassant les boules de cheveux, jusqu'à faire des masses énormes. Certaines sont assises dessus et rient en disant « tous ces cheveux ». D'autres ne parviennent pas à faire l'ascension du monticule fait de cheveux qu'elles ont ainsi amassés. Elles marchent en tenant leurs jambes continuellement pliées, pleurant, semble-t-il, la grande peur, la grande misère. Certaines tombent par terre. On ne les voit pas se relever. Parfois, un ululement se fait entendre, suivi par d'autres menus dont le son s'assemble. Les ululements enflent. C'est tout d'un coup comme si 200 navires en détresse appelaient au secours dans la nuit. Elles disent « Enfer, que la terre soit comme un vaste enfer. » Ainsi elles parlent en criant, en hurlant. Elles disent que mes paroles soient comme la tempête, le tonnerre, la foudre, que les puissants laissent tomber de leur hauteur. Elles disent qu'on me voit partout les armes à la main. Elles disent la colère, la haine, la révolte. Elles disent « Enfer, que la terre soit comme un vaste enfer. » Ainsi elles parlent en criant, en hurlant. Elles disent « Que mes paroles soient comme la tempête, le tonnerre, la foudre que les puissants laissent tomber de leur hauteur. » Elles disent qu'on me voit partout les armes à la main. Elles disent la colère, la haine, la révolte. Elles disent « Enfer, que la terre soit comme un vaste enfer, en détruisant, en tuant, en portant le feu aux édifices des hommes, au théâtre, aux assemblées nationales, aux musées, aux bibliothèques, aux prisons, aux hôpitaux psychiatriques, aux usines anciennes et modernes dont elles délivrent les esclaves. »
Oh, the many corpses begin to speak. What ignorance is cannot be argued over anymore. It is too late for pleading. White picket dreams put you off the scent. The world is screaming, rooted in a trivial concern, in insecurities, in a need to make face and keep up and drown out the many voices within. Imagine a culture that has at its root a more soulful connection to land and to lovers. But I can hear the lie before you speak. There is nothing but progress to eat, and we are so fat and so hungry, and the black wrists are cuffed in the pig van, while the white shirt and tie in the tube car, distraction and pizza. Pictures of beer and guilt about urges, sexual distrust and abandon to nothingness. Give me something I can nail myself to. Give me a savagely dressed talking head who has something about them I trust and despise, and what of it anyway? These windows don't open, they were designed to stay closed. Shower, smoothie, coffee, commute, check the internet, never stop, never stop. There is a scar on the soul of the world, and it needs you to look. The blood of the past is here, it remains. The blood of the murders, the bodies like sacks leaking grain or stacked chest or back on the plains, it remains. To acknowledge without guilt, to accept without condition, and to listen when other people tell you how you have behaved. Truth is, it's for us to feel and be moved, but I hear the clatter of bone against steel. It is coming, it will not be stilled, it is there. In the air, scorched white, the reflection of sunlight on glass, bouncing back into sunlight on glass, bouncing back. Industrialized, denying, business as usual. So roll your eyes, shake your head, turn away and call me names. I'm okay with that. Too proud. Unable to listen, we keep speaking. Motored by blood, unable to notice ourselves. Unable to stop, and unwilling to learn.